Écho d'économie.
Le projet du corridor de Lobito serait-il menacé? En tout cas, le gel de l'aide américaine fragilise ce projet ferroviaire clé pour l'exportation des minerais congolais. Pillage de la Bralima Bukavu et du marché de Kadutu samedi à l'entrée de rebelles du M23. Une lourde menace pour la survie des ménages et les finances de la province du Sud Kivu. Nous en parlons tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le corridor de Lobito, un projet d'expansion minière d'un milliard de dollars en Afrique, retardé par le gel de l'aide américaine. Le plus grand projet américain de minéraux critiques en Afrique connaît un retard en raison du gel généralisé de l'aide étrangère sous l'administration Trump, selon l'agence de presse Bloomberg. Le projet ferroviaire du corridor de Lobito vise à transporter les minéraux de la ceinture du cuivre d'Afrique centrale jusqu'à la côte angolaise pour leur exportation vers l'Occident. D'autres détails avec Emmanuel Elamiji.
Les responsables gouvernementaux et les promoteurs du projet craignent aujourd'hui des perturbations car selon le financement des études, des services techniques et des paiements a été suspendu dans le cadre du démantèlement de l'aide étrangère par l'administration Trump, selon des sources proches du dossier relayé par Bloomberg. Bien que ce projet soit aligné sur des priorités stratégiques américaines, notamment l'approvisionnement en minéraux critiques, l'incertitude générée par les décisions de Trump soulève des inquiétudes quant à leur viabilité. Le projet de réhabilitation de la voie ferrée en République démocratique du Congo, qui serait connecté au corridor de Lobito, pourrait être compromis par ces coupes budgétaires. En décembre dernier, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne avaient signé un accord avec le gouvernement congolais pour étudier ces projets dont le coût était estimé à 1 milliard de dollars américains. Mais l'USAID avait déjà alloué 250 000 dollars pour analyser les modèles financiers de rénovation et explorer un financement supplémentaire de 5 millions de dollars pour une étude de préfaisabilité. Ces fonds sont désormais bloqués, bien que les États-Unis, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement restent engagés dans le projet. Notons qu'en 2023, les États-Unis d'Amérique avaient approuvé un prêt de 553 millions de dollars via la DFC pour le chemin de fer atlantique de Lobito exploité par un consortium dirigé par Trafigura. Il avait été soutenu par l'ancien président Joe Biden qui s'était rendu sur place lors de sa présidence. Le consortium dirigé par Trafigura espère recevoir son premier versement de la DFC d'ici mars. Par ailleurs, le ministre zambien des Transports met en garde. Les États-Unis ne devraient pas créer un vide que d'autres pourraient vouloir combler.
Au sud Kivu, deux bateaux d'une grande capacité ont quitté le port de Bukavu mardi matin à destination de Goma. Cette reprise des voyages lacustres entre Goma et Bukavu, 24 heures sur 24, a reçu le feu vert des autorités locales issues de la rébellion. À Goma, les armateurs affirment se préparer pour naviguer pour Bukavu. D'après eux, jusqu'ici, aucune mesure particulière ne leur a été communiquée, mais certains cadres du mouvement étaient au port pour s'assurer de l'effectivité de cette reprise. Ces derniers ont demandé aux armateurs de s'organiser avec les services publics pour les voyages, indiquent nos sources. Tout compte fait, cette reprise du trafic lacustre était trop attendue par la population qui était contrainte de passer par le Rwanda pour se rendre à Bukavu. Plusieurs observateurs considèrent que cette reprise est une bouffée d'oxygène pour la population dans la mesure où elle va faciliter l'approvisionnement par l'acheminement des denrées alimentaires entre les deux villes. Pour rappel, ce trafic lacustre avait été suspendu par les autorités du Sud Kivu quelques jours avant la prise de la ville de Goma. Restons à Bukavu pour parler de l'un des pillages sans précédent deux jours avant l'entrée des rebelles. C'est notamment ces deux poumons économiques, à savoir le marché de Kadutu, l'usine de la Bralima. C'est là, sans compter plusieurs entreprises telles que Datco et bien d'autres. Les acteurs locaux et analystes estiment que l'économie de la province vient de subir un coup dur dont elle aura du mal à se remettre. Les conséquences seront énormes sur les ménages, les institutions financières, mais aussi sur les recettes publiques. Récit de Sifa Maguru, rendu par Emmanuel Elamiche.
Bukavu Une ville avec un peu plus d'un million d'habitants, n'ayant de secteur productif à la hauteur de ses besoins, la ville est plus tournée vers le commerce. Et c'est le marché central de Kadutu qui est la plaque tournante du dit commerce, affirme un analyste local. Bien que 80% des marchands, soit la majorité, œuvrent dans l'informel, ce commerce fait tourner plus de 50% de l'économie de la ville. Le pillage systématique de ces marchés, suivi de son incendie partiel, est un coup dur pour des milliers de ménages qui ont vu leurs économies voler en éclats, déplore cet analyste qui a requis l'anonymat. Pire encore, la plupart de ces vendeurs prennent des marchandises auprès des grossistes et importateurs de la Chine, de Dubaï, de la Turquie et de l'Afrique de l'Ouest. Ces derniers revendent et profitent de la marge sur vente pour la survie de leurs familles respectives, notamment pour la nourriture, les soins de santé et même la scolarisation de leurs enfants. En outre, ces petits commerçants s'organisent en petites mutuelles de fonds et prêts remboursables auprès des institutions de microfinance et coopératives. Cependant, pour la société brassicole Bralima, l'unique entreprise de production digne de ce nom a été victime d'un pillage honteux, déplore notre source. Cette société s'en remettra très difficilement, estiment plusieurs personnes. Pourtant, une entreprise qui contribue à plus à l'économie de la province du Sud Kivu en termes d'impôts directs, la Bralima Sud Kivu contribue aussi au budget de la province avec une moyenne mensuelle de 250 000 dollars de taxes sur consommation. Les conséquences de son arrêt seront énormes, préviennent nos sources.
Écho d'économie. Lancement lundi à Matadi au Congo central de l'atelier de renforcement des capacités des membres de la cellule provinciale du climat des affaires. Cette formation est organisée par le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Selon Michel Massouapi, directeur en charge du climat des affaires à l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, ces assises permettront d'outiller la cellule provinciale du climat des affaires des instruments pour vont l'aider à initier des réformes en faveur de cet environnement des affaires au Congo central. Michel Massouapi explique le bien fondé de cette formation dans ses propos recueillis par Nana Plurichmambou.
Nous allons échanger avec eux sur les différentes réformes d'abord que le gouvernement de la République a opérées au niveau central et au niveau de province. Et puis nous allons renforcer leurs capacités, mettre à disposition les outils essentiels pour aider à implémenter, d'abord à initier les réformes ici en province du Congo central et à opérer des réformes. Nous avons besoin des réformes qui sont structurelles et des réformes systémiques pour permettre à faire avancer les activités économiques dans notre très chère province du Congo central. Cette cellule va en fait permettre, aider le gouvernement provincial à avoir une feuille de route complète, et cette feuille de route sera, d'ici 2-3 semaines, transformée en assignation ministérielle. Ça va permettre que la cellule et d'autres structures mettent en place les différentes réformes opérées pour permettre à la province de se retrouver à la province d'assainir l'environnement des affaires et des investissements.
Au Kasaï oriental, signature dimanche à Mbujimayi d'un protocole d'accord stratégique entre le gouvernement provincial et la société Chandong Aosi Road Supply Chain. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat de province en présence d'experts, des ministres provinciaux ainsi que de la délégation chinoise en séjour à Mbujimayi. Esther Ndalafina pour le reportage.
Ce protocole d'accord stratégique de 5 ans vise le développement du Kasaï oriental dans divers secteurs, dont notamment l'agriculture, la construction d'infrastructures essentielles, des écoles, des hôpitaux, des maisons sociales, ainsi que des bâtiments administratifs. Le manager général et partenaire de second rang, Zhang Ding, représentant de la délégation chinoise, a exprimé la détermination à soutenir le développement de la province du Kasaï oriental par la province chinoise de Shandong, plus performante en matière d'éducation et de la recherche. Jean-Paul Mbwebwe, gouverneur de province, a promis de bien collaborer avec ses partenaires de taille pour renforcer les relations entre les deux provinces. Signalons qu'avant la signature de ce protocole d'accord qui comporte 21 articles, la délégation chinoise a visité plusieurs sites potentiels que regorge la province du Kasaï Kasaï oriental. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans le Maniema, le président provincial des pétroliers salue la fixation du prix du carburant à 6500 francs congolais le litre dans l'ensemble de la province par toutes les parties prenantes. Amadi Mugeni appelle les membres de sa corporation à respecter cette décision prise de commun accord pour le développement du Maniema. Écoutons-le dans ce propos recueilli par Florence Kizalunga.
Les 6500 francs là, ce n'était pas un chiffre du hasard, c'était passé par des calculs rationnels. Donc toutes les étapes de vente, chaque étape a eu son marge de bénéficiaire. C'est pourquoi on est arrivé à ces chiffres là de 6500. Nous demandons à tous les revendeurs et les vendeurs de carburant d'obtempérer scrupuleusement à l'arrêté qui a été signé par l'autorité provinciale, parce que ça ne concerne pas seulement l'autorité. C'est une initiative qui cadre avec le développement de notre province. Vraiment, pour moi, nous devons obtempérer de manière que notre province puisse se débarrasser de son mot qui a toujours gangréné son développement et l'enclavement de notre province. Vraiment, ça sera une très bonne chose.
Et pour finir ce magazine, notez que le Fonds de promotion de l'industrie FPI a lancé une opération de contribution volontaire pour soutenir l'effort de guerre. Son directeur général, Bertha Mudimou, a réuni tous les agents et cadres au siège de cet établissement public à Kinshasa pour collecter des fonds destinés à soutenir les forces armées de la RDC et la population de la partie est du pays. Cette initiative intervient au sein du FPI quelques jours après une réunion entre le ministre de l'Industrie et les différents services sous sa tutelle. Le FPI répond ainsi favorablement à l'appel du gouvernement de soutenir l'effort de guerre. Écoutez Bertha Mudimou dans ses propos recueillis par Richard Junior Kamunga.
Aujourd'hui, nous commençons la campagne de collecte de l'argent pour nos amis de l'Est. Cette contribution volontaire, je peux dire qu'elle est aussi incitative, parce que nous devrions en tout cas partager nos problèmes, nos difficultés avec ceux qui sont à l'Est. Il faut que nous puissions les aider et j'inviterai tout le monde à participer à cette action.
Fin de Écho d'économie. Billy Landry Betou était à la prise de son, Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Je suis Jocelyne Moussaou, merci de nous avoir suivis.